18h. Voici Christelle Rebière pour le journal. Bonjour Christelle.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avec à la une, l'heure du choix. C'est parti, les bureaux de vote ouvrent en ce moment dans toute la France jusqu'à 20h. 12 candidats au départ et seulement 2 qualifiés ce soir pour le second tour. Et l'abstention tant redoutée est la grande inconnue. Nous irons aussi à Pékin voir comment ça se passe dans le contexte du Covid. Les autres titres, Christelle.
L'Ukraine, un pays à deux vitesses. L'Est se prépare à la grande bataille du Donbass pendant que l'Ouest du pays vit presque normalement. 10 milliards d'euros ont été récoltés pour aider les réfugiés et les personnes déplacées. Dans ce journal aussi, le Sri Lanka au bord de la faillite et des manifestations géantes dans la capitale. Le Ouigo train classique. La SNCF lance une nouvelle offre demain. Moins rapide, moins confortable, mais surtout moins cher. Plus de buts, plus de show. Le PSG s'en est donné à cœur joie hier soir, vainqueur à Clermont-Ferrand 6-1. Le journal des sports tout à l'heure avec Guillaume Batin.
Et à 8h20, la Biennale internationale du design. C'est à Saint-Étienne jusqu'au 31 juillet. On va en parler avec deux invités, la designer Nathalie Crasset et Olivier Péricot, qui est directeur du pôle recherche de la Cité du design de Saint-Étienne. Donc.
France Inter.
Aux urnes citoyens, les bureaux de vote viennent d'ouvrir dans toute la France. 48,7 millions d'électeurs sont appelés à choisir aujourd'hui les deux candidats finalistes pour le second tour de l'élection présidentielle. Et plus que jamais, la grande inconnue, c'est la participation, avec l'ombre du record d'abstention de 2002, 28,4%. L'analyse de Stéphane Zumsteg, directeur du département opinion de l'Institut Ipsos.
C'est l'élection qui réussit encore, en tout cas jusqu'à présent, à susciter l'intérêt et la mobilisation des Français. En général, il y a autour, ces dernières décennies, autour de 80% à peu près des Français qui vont voter au premier tour de l'élection présidentielle. Ceci dit, les choses ont évolué dans le temps. L'élection présidentielle n'échappe pas totalement à la progression de l'abstention élection après élection. Pas dans les mêmes, évidemment, mesures que pour des élections régionales, européennes ou municipales. Pour mémoire, par exemple, il y a 5 ans, eh bien, 78% des Français étaient allés voter, ce qui était un peu moins que 5 ans avant, en 2012, où ils étaient à peu près 80%. On a demandé aux Français qui comptaient s'abstenir quelles étaient les raisons de leur désaffection de cette vie politique. Ils nous répondent la plupart du temps que les hommes et les femmes politiques disent toujours un petit peu la même chose. Et surtout, cette année, on ne sent pas, enfin, ces Français-là, en tout cas, ne sentent pas de nouveauté. Ça s'explique notamment par le fait qu'il y a 12 candidats cette année. Eh bien, 7 d'entre eux étaient déjà candidats il y a 5 ans.
Des propos recueillis par Maxence Lambrecq. Le ministère de l'Intérieur fera un premier point sur la participation à midi, un autre à 17h. Les bureaux de vote sont donc ouverts jusqu'à 19h, voire 20h dans les plus grandes villes. Pour voter, une carte d'électeur ou par défaut une pièce d'identité, une carte vitale, un passeport, un permis de conduire, un permis de chasse peut même suffire. Le port du masque n'est pas obligatoire mais recommandé pour les personnes les plus fragiles ou celles atteintes du Covid. À l'autre bout du monde, les Français votent en ce moment en Chine. Sous Covid, plusieurs milliers d'électeurs qui se retrouvent confinés en sont privés, notamment à Shanghai. Bonjour Sébastien Berriot.
Oui, bonjour.
Vous êtes en direct de l'ambassade de France à Pékin, dans la capitale chinoise. Le scrutin se déroule dans des conditions quasi normales.
Oui, conditions de vote normales, en tout cas pour les Français qui résident dans la capitale. Ils sont nombreux à faire le déplacement depuis ce matin dans les deux bureaux installés dans l'ambassade de France. Il y a près de 1700 inscrits ici, mais la circonscription électorale de Pékin est très large. Elle va jusqu'à la frontière russe et comprend aussi le Xinjiang et le Tibet. Avec les restrictions sanitaires, impossible pour la plupart des Français de ces secteurs de venir dans la capitale. Il n'y a pas eu non plus de tournée consulaire pour établir des procurations, comme ça se fait d'habitude. Résultat, beaucoup sont privés de premier tour et ceux qui ont pu voter ce matin à Pékin se considèrent un petit peu comme des privilégiés, comme Karine et Anne.
On a beaucoup de chance de pouvoir voter ici à Pékin. On se rend compte que c'est inespéré parce que d'autres villes en Chine comme Shanghai n'ont pas la possibilité de voter.
C'est vrai qu'il y a quelque chose de choquant dans l'idée qu'il y a des Français qui probablement ont envie de voter et qu'ils ne soient pas dans la capacité de le faire du tout. Donc aujourd'hui, je me disais que c'était d'autant plus notre devoir de venir et d'exercer effectivement ce droit-là quand on est dans la capacité de le faire.
Réussir à voter pour une présidentielle dans un pays comme la Chine, où on n'élit pas de président, est en tout cas vécu avec une saveur particulière par les électeurs français, à l'image de Maxime.
C'est vrai que du point de vue des Chinois, souvent, ils se disent « Vous êtes rigolos, les Occidentaux, vous pensez que votre système est supérieur parce que vous votez, mais du point de vue de l'individu, ce que vous mettez dans l'urne, c'est jamais qu'une goutte parmi un océan, donc vous avez en fait aucun impact. C'est vrai que moi, voter ici en Chine, c'est en fait une source de fierté. Et je pense que si j'étais en France, j'irais voter, évidemment. Mais ici, je suis encore plus motivé à le faire. Je le fais avec d'autant plus de détermination et de joie.
Il est un petit peu plus de 14 heures ici à Pékin. Christelle, le taux de participation avoisine les 30% à l'ambassade de France.
Sébastien Berriot en direct de l'ambassade de France, donc à Pékin. Merci. Il y a 12 candidats donc pour ce premier tour de la présidentielle. Ils ne seront plus que deux ce soir. Et eux, où vont-ils voter, Julie Drouin?
Le président sortant, Emmanuel Macron, vote au Touquet, son lieu de villégiature, tandis que la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen, se rend à Hénin-Beaumont, où elle siège en tant que députée. Pas très loin, le candidat du Parti communiste, Fabien Roussel, ira glisser son bulletin à Saint-Amand-les-Eaux, sa commune de résidence dans le département du Nord. Une grande partie des autres candidats voteront à Paris, Éric Zemmour du Parti Reconquête dans le 8e arrondissement, l'écologiste Yannick Jadot dans le 11e et la maire PS de Paris, Anne Hidalgo, dans le 15e arrondissement. La candidate Les Républicains, Valérie Pécresse déposera son bulletin dans un bureau de vote de Vélizy-Villacoublay dans les Yvelines, tandis que Nathalie Arthaud de Lutte Ouvrière votera à Pantin en Seine-Saint-Denis et que Nicolas Dupont-Aignan se rendra aux urnes de hier dans l'Essonne. On s'éloigne à présent de la capitale, plus au sud, avec Philippe Poutou du NPA qui vote dans la capitale girondine à Bordeaux. Le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, se rendra lui à Marseille. Enfin, Jean Lassalle du Parti Résistant retrouvera son village de Lourdes-Diocichère dans les Pyrénées-Atlantiques.
Et nous vous ferons vivre cette soirée sur France Inter. Cette soirée électorale dès 19h avec Claire Servageant et Jérôme Cadet, nos éditorialistes, nos reporters dans les QG de campagne. Estimation, puis décryptage, analyse des résultats avec en studio Stéphane Zumsteg du département opinion de l'Institut de sondage Ipsos et Céline Braconnier, directrice de Sciences Po à Saint-Germain-en-Laye. Ce matin, 14 organisations qui gèrent nos aînés demandent une loi pour le grand âge dans les 100 premiers jours du futur gouvernement. Dans le journal du dimanche, elles exigent une augmentation des moyens humains. Dans les 20 ans à venir, le nombre de personnes de plus de 75 ans va quasiment doubler pour atteindre 11 millions.
À la une également, Christelle, l'Ukraine qui se prépare à un assaut dans le Donbass. La Russie espère une victoire décisive sur cette partie du pays avant la grande fête nationale du 9 mai prochain.
L'armée russe espère prendre en tenaille cette région et aujourd'hui c'est un peu comme s'il y avait deux Ukraines. L'une pilonnée sans relâche à l'est et au sud et celle où la menace russe se fait plus distante. Des dizaines de milliers d'habitants de Kiev reviennent chaque jour chez eux. Et à Lviv, dans l'ouest du pays, les premiers beaux jours du printemps ont vu la réouverture des boutiques, des restaurants et des terrasses. Mais au-delà des apparences, l'ombre de la guerre n'est jamais loin. Camille Magnard est notre envoyée spéciale à Lviv.
À quelques pas des terrasses de café qui font de nouveau la fierté de Lviv, chaque matin depuis le début de la guerre, à la cathédrale Saint-Pierre et Paul, on enterre des militaires ukrainiens morts au combat. Ce matin-là, la mère de soldats éplorés s'appelle Valentina. C'est une réfugiée de la ville de Kharkiv.
C'est mon fils qu'on enterre, Sacha. Il a été tué du côté de Popasna, dans le Donbass. Il avait déjà combattu là-bas en 2014 pendant 4 ans. Quand la guerre a éclaté à nouveau, il est revenu s'engager dans l'armée pour défendre son pays, défendre sa mère.
De l'autre côté de la place, où la cérémonie religieuse est diffusée par un haut-parleur, Maria, l'esthéticienne, est sortie devant son salon de beauté comme chaque matin, tête baissée, pour saluer le cortège.
C'est important pour nous de rendre hommage aux soldats qui donnent leur vie pour que nous, ici, nous puissions respirer, marcher librement sur notre propre terre et garder notre joie de vivre ici, en Ukraine.
Les combats et la mort d'un côté, la vie et la liberté de l'autre. Lviv, catapultée capitale de l'arrière-front par la guerre, n'a d'autre choix que de concilier les deux. Elle accueille en ce moment plus de 200 000 déplacés de l'intérieur de l'Ukraine, ce qui en fait, selon son maire, le plus gros hub humanitaire au monde.
Reportage à Lviv, Camille Magnard et Laurent Macchietti. À Kiev, les chefs d'État commencent à défiler auprès du président Zelensky. Dans la seule journée d'hier, le chancelier autrichien et le premier ministre britannique Boris Johnson. Ce dernier a promis des armes à l'Ukraine, des blindés et des missiles anti-navires. Et il y a aussi l'aide aux réfugiés dans les pays limitrophes et aux déplacés. La levée de fonds Agir pour l'Ukraine a permis de récolter une somme colossale. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a tenu à en faire l'annonce en personne hier en Pologne.
Ok, laissez-moi jeter un œil aux derniers chiffres. Nous avons finalement, le monde a finalement récolté 9,1 milliards d'euros avec cette conférence de donateurs. Et en plus, attendez, la Commission et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement ajoutent 1 milliard. C'est fantastique. Cela fait 10,1 milliards d'euros. Et si vous le dites en dollars, ça fait encore plus.
Plus de 10 milliards d'euros donc au total d'aide humanitaire. Le Sri Lanka en pleine faillite, cette île au sud-est de l'Inde est en proie à une crise économique inédite accentuée par le Covid. Face aux pénuries notamment d'essence, l'insurrection monte. Un rassemblement géant s'est tenu hier devant le palais présidentiel à Colombo. Une correspondance de Côme Bastin.
Des deux côtés de la promenade maritime, les manifestants affluent devant le symbole du pouvoir. Un participant s'enthousiasme.
C'est la première fois dans l'histoire du Sri Lanka qu'on assiste à un tel mouvement citoyen. Les gens viennent ici sans couleur politique pour réclamer la démission du gouvernement. La foule va être énorme. Il y a aussi des manifestations dans les villes de Kandy ou Negombo.
File d'attente interminable devant les stations-service, coupure d'électricité, inflation record. Depuis plusieurs mois, la vie quotidienne est devenue un casse-tête pour la population. Dinuk, 26 ans, a voté pour le président Rajapaksa en 2019, mais réclame désormais son départ.
Le gouvernement a mis l'économie à genoux, les prix des biens de première nécessité explosent, c'est très difficile de trouver de l'essence, mais les gens proches du pouvoir ne rendent aucun compte de leur faute. Il faut qu'ils partent et que le FMI nous aide à relever le pays.
Ce samedi, un nouveau gouverneur a été nommé à la Banque centrale du Sri Lanka. Pas de quoi regagner la confiance des manifestants, ils étaient des dizaines de milliers à Colombo, soit le plus grand rassemblement depuis le début de la crise.
Reportage Côme Bastin à Colombo. Une mise sur les rails qui ne doit rien au hasard. En ce tout début de vacances de printemps, la SNCF lance demain une nouvelle offre à bas coût. Ça s'appelle le Ouigo train classique entre Paris et Lyon ou entre Paris et Nantes. Ou comment, Elia Bergel, comment faire du neuf avec du vieux?
Les billets de ces Ouigo train classique iront de 10 à 30 euros maximum pour les adultes, prix fixe de 5 euros pour les moins de 12 ans. Ces nouveaux trains, ce sont en fait des corails repeints en rose et bleu. À l'intérieur, rien n'a changé, pas de prise électrique, pas de wifi. Pour Gilles Dansard, directeur de la Mobilette et spécialiste des transports, la SNCF fait un retour en arrière.
La SNCF essaie de se repositionner sur des destinations et des offres qu'elle avait depuis longtemps désertées. Avec le développement du TGV entre les grandes métropoles régionales, les métropoles intermédiaires n'étaient plus desservies.
Ces nouveaux trains s'arrêteront en effet dans des gares intermédiaires comme par exemple Juvisy, Melun, Blois, Dijon, Mâcon. Ces rames très économiques mettront deux fois plus de temps pour faire Paris-Lyon ou Paris-Nantes. En se diversifiant ainsi, la SNCF veut couper l'herbe sous le pied de la concurrence comme l'espagnol Renfe ou Trenitalia, assure Gilles Dansard.
La SNCF redoute beaucoup l'arrivée d'opérateurs à la fois moins chers et peut-être différents dans le service. Elle préfère anticiper de façon à essayer d'éviter une arrivée massive de concurrents qui profiteraient de ses choix passés tout TGV.
En revanche, Ouigo train classique pourrait mécontenter les régions car ce service ultra low cost risque de faire de l'ombre au TER.
Et à la gare des sports, 3 minutes d'arrêt.
Bonjour Guillaume Batin.
Bonjour Christelle.
Alors les sports, c'est d'abord la Formule 1 en direct avec le troisième Grand Prix de la saison, Grand Prix d'Australie.
46 tours parcourus sur les 58 prévus et toujours un monégasque en tête. Charles Leclerc parti en pole position. Il a 13 secondes d'avance sur le second, le mexicain de l'écurie Red Bull, Sergio Pérez. Troisième place pour George Russell, le pilote Mercedes. Quatrième place pour Lewis Hamilton et un grand absent. Deuxième abandon en trois courses pour le champion du monde en titre, Max Verstappen. Sa voiture s'est arrêtée net. Panne électrique avec un début d'incendie. Les Français sont loin. Huitième place pour Esteban Ocon et dixième pour Pierre Gasly.
Bon, on suivra aussi ce soir, Guillaume, le Grand Prix de moto GP des Amériques aux États-Unis.
Avec là encore deux pilotes français mieux placés, Johan Zarco et Fabio Quartararo. Quartararo, champion du monde en titre, ils partiront respectivement aux quatrième et sixième positions sur la grille de départ. C'est l'Espagnol Jorge Martin qui partira en pole position. Départ à 20h, heure française.
Le football avec le PSG, plus que jamais en pole position.
Le Paris Saint-Germain n'a fait qu'une bouchée hier de Clermont. Victoire 6 buts à 1 et un triplé pour deux des trois stars du PSG, Winnie Claret.
Kylian Mbappé et Neymar, auteurs de 3 buts chacun sur la pelouse de Clermont hier soir. Léo Messi lui signe 3 passes décisives. Le compteur du trio d'attaque s'affole depuis la reprise du championnat. Et le crack de Bondy s'en réjouissait après le match.
On a pris beaucoup de plaisir. Je pense qu'on en a donné aussi. C'est dommage que ça arrive que maintenant. Après, il y a eu pas mal d'événements qui ont fait qu'on a été un peu retardé. Mais voilà, c'est 3 jours de qualité. Et je pense qu'on a essayé d'aider l'équipe un maximum. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui.
Les Parisiens qui enchaînent les performances en ce moment comme un air de rédemption après les élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions il y a un mois, le défenseur du PSG, Presnel Kimpembe.
Bien sûr que ça fait du bien. On sait que voilà, après la Champions League, ça a été compliqué. Ça a été dur pour tout le monde, surtout dans la tête. Et des matchs comme ça, ça donne toujours de la confiance, surtout pour les attaquants.
Des attaquants qui ont impressionné le public clermontois. Mbappé a même été applaudi sur son dernier but. Le gardien auvergnat Arthur Desmas.
Ah bah c'est les meilleurs au monde. Ils sont imprévisibles.
Un double triplé, ça n'était pas arrivé en Ligue 1 depuis 2019. Kylian Mbappé était déjà dans le coup à l'époque. Cette saison, il semble inarrêtable. Depuis hier, c'est le meilleur buteur et le meilleur passeur du championnat.
Le Paris Saint-Germain qui possède désormais 15 points d'avance sur son dauphin, l'Olympique de Marseille. L'OM qui jouera ce soir à 21h au Vélodrome face à Montpellier en bas de tableau, en bas de classement. Les Girondins de Bordeaux, derniers, reçoivent Metz avant-dernier au classement de la Ligue 1, coup d'envoi à 13h.
Et puis en rugby, le 15 de France féminin en quête d'une 3e victoire consécutive dans le tournoi des 6 nations.
Un 3e match face à l'Écosse est gagné pour continuer de rêver au grand chelem comme l'ont fait les garçons il y a quelques semaines. Et à 6 mois de la Coupe du Monde, la sélectionneuse Annick Hérault n'hésite pas à lancer dans le grand bain de toutes jeunes joueuses comme l'arrière Émilie Boulard, 22 ans.
Ça a été assez rapide. Je suis très fière du parcours que j'ai mené. Je pensais pas du tout en être là. Je pensais déjà pas que j'allais faire le tournoi destination l'an dernier. Après, forcément, quand j'ai eu cette opportunité-là, on commence à envisager des nouvelles perspectives. On se dit pas, faut que je gagne ma place. On se dit, il faut que j'apporte ce que je peux à l'équipe. On se tire vers le haut grâce à cette concurrence plutôt que de nous enterrer, on va dire. Et c'est ça aussi qui est très positif et qui permet de s'améliorer chacune à notre poste.
Émilie Boulard, l'arrière du 15 de France. Écosse-France, coup d'envoi à 14h pour cette équipe de France féminine de rugby. Un mot sur la Formule 1, toujours Charles Leclerc. En tête, le pilote monégasque qui fait le bonheur des, comment on appelle ça, les supporters de la Squadra Azzurra, de la Scuderia Ferrari,
les tifosi.
Les tifosi, voilà, il suffisait d'y penser.
Guillaume Batin dans le journal de Christelle Rebière, le temps de ce dimanche.
La météo avec Euromaster, toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Depuis 30 ans, les experts Euromaster sont au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Du beau en général, Jean-Michel Golinski.
Du soleil pour tout le monde aujourd'hui, mais avec de petites nuances à apporter en fonction des régions. Par exemple, de la Bretagne en allant vers la Normandie et la région parisienne. Le voile nuageux présent en matinée va gagner vers la Belgique et l'Allemagne en seconde partie de journée. Cet après-midi, les nuages d'altitude seront également plus visibles sur la Nouvelle-Aquitaine. Ailleurs, du plein soleil ou pratiquement. Notez que le vent sera sensible sur les Pyrénées-Basques et ce soir dans le domaine de l'OTAN. En fin de nuit, les brouillards sont fréquents du Grand Est au nord de Rhône-Alpes, dans les températures positives sur les côtes, mais de 0 à moins 2 en général ailleurs. Cet après-midi, les valeurs vont afficher un petit recul par rapport à hier autour de la Méditerranée, avec une moyenne de 18 degrés, alors qu'ailleurs, elles seront plus douces. Il est prévu 18 à 21 du Limousin à la Garonne, 24 sur le Pays Basque et 11 à 16 sur les deux tiers nord.
Jean-Michel Golinski, Météo France.